en toute liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir est un jeune brillant politique et qui force l'admiration par sa constance, mais aussi par la pertinence de ses idées, et souvent aussi le courage de ses idées. Notre invité, vous l'aurez compris, est le jeune Amidou Doumbia du parti Yelema, secrétaire politique du parti Yelema. Avec lui, nous allons parler du discours à la nation du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et quelques sujets d'actualité, et on parlera aussi du congrès du parti Yelema et les perspectives pour le parti du docteur Diawara, n'est-ce pas? Merci de répondre à notre invitation.
C'est à moi de vous remercier.
Merci.
C'est à moi de vous remercier.
Vous portez bien, Amidou, ça va?
Très bien.
Et on va commencer d'abord par l'actu, et puis après, même si on sait que le congrès, c'est aussi l'actualité, mais on va le discours à la nation du président de la transition. Vous l'avez suivi. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours?
Donc, je vous remercie. Je remercie Djoliba pour cette tribune et pour l'occasion que nous a donné de nous exprimer en cette période très difficile pour notre pays. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours à la nation du président de la transition. C'est une tradition républicaine que le président s'adresse à son peuple en fin d'année. Les discours de ce genre sont des occasions pour présenter les bilans des exercices écoulés, parler des perspectives. Donc, quand on va rentrer dans le cas spécifique de ce discours-là, moi, j'ai vu un discours par endroits rassurant, par endroits inquiétant. Il y a certains éléments du discours qui peuvent rassurer, qui rentrent un peu dans la ligne de conduite de Yelema, de ce que Yelema demande depuis un bon bout de temps, notamment le dialogue intermalien dont il a parlé. Okay. Pour nous, aujourd'hui, on ne peut pas sortir de cette crise tant que les Maliens, entre eux, ne discutent pas. Okay. Entre eux... et ne travaille pas à avoir une paix durable et voir peut-être la possibilité même de relire l'accord. C'est quand même le sujet évoqué quand même suscite un peu d'espoir. On verra quel format va être donné dans les jours à venir. Il y a aussi des éléments relatifs à la volonté de vouloir rééquiper l'armée, de le doter en équipement. Ça aussi, c'est quand même un point positif qu'il faut signaler. Ça donne beaucoup d'espoir parce que nous avons besoin que notre armée soit réarmée, que sa capacité opérationnelle puisse s'améliorer. Ça, c'est des points positifs. Maintenant, ce qui m'a le plus inquiété, j'ai vu un discours après 3 ans de transition. Ça devait être un discours où on parle des actions qu'on a pu réaliser. Quand on prend par exemple le secteur de l'énergie, les justifications données, c'est relatif surtout aux régimes passés qui n'ont pas su être visionnaires, qui n'ont pas pu mettre des mécanismes en place pour assurer quand même l'électricité au pays. Et là, il faut reconnaître que la transition est là, ça fait 3 ans. Normalement, s'il y a quand même des difficultés majeures en termes de vision des régimes passés, les 3 ans devraient trouver quand même que les actions ont permis de pouvoir stabiliser le problème. Alors que nous, quand on analyse réellement, le problème ne s'est pas stabilisé, le problème s'est aggravé. Aucun Malien ne peut le contester, c'est un fait qui convient de rappeler. Et deuxième élément qui pouvait être un élément qui rassure, parce que nous avons tous, y compris les autorités, parlé, dire à chaque fois qu'il faut qu'on sorte de la transition plus rapidement et qu'on sorte de la transition de la plus belle des manières. Et je pense que dans le discours à la nation du président, il n'y a pas eu de promesse ferme. Il a été dit que efforts vont être accentués pour nous sortir, pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas une promesse ferme. Surtout qu'il y a eu un léger report. Et ce léger report, on ne nous a pas encore donné de date. Donc c'était une opportunité pour moi de rassurer davantage tous les acteurs, pas seulement la classe politique, parce que l'élection n'est pas seulement l'affaire des classes politiques, c'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des autorités, c'est l'affaire de tous. Nous rassurer et nous donner quand même une ligne de conduite et de donner quand même des horizons qui pourront nous permettre de dire qu'on va sortir pendant cette période de la transition. Mais là aussi...
Pour vous, le discours n'est pas ferme sur ce sujet. Et au niveau de l'élection de présidentielle ou des autres élections, qu'est-ce que la classe politique, qu'est-ce que vous attendez de cette transition? Est-ce que pour vous, il faut aller à des élections aux dates indiquées ou il faut, comme le disent certains, laisser le pays se sécuriser d'abord, sécuriser le pays et puis ensuite on pourra parler d'élections?
Bon, déjà un peu ce... Un peu l'argumentaire là est à côté dès lors qu'on a organisé les élections, les consultations référendaires sur toute l'étendue du territoire. On s'est même vanté ici que ça fait partie des meilleures élections qu'on a organisées. Donc l'argument de la sécurité, je ne pense pas que même les autorités veuillent parler de ça, parce que les raisons qui ont été évoquées par le ministre d'État pour reporter, je pense que les raisons sécuritaires n'en font pas partie. Ce que on attend surtout au niveau de la classe politique, c'est plus de considération. Si on vous dit depuis l'annonce de la date de léger report jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de rencontre du cadre de concertation avec le ministre de l'administration territoriale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue officiellement entre la classe politique et le ministre de l'administration territoriale. Alors que, bien évidemment, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de nous dire où se trouve le blocage, on a besoin de nous dire où est-ce que nous en sommes par rapport au fichier électoral, où est-ce que nous en sommes par rapport aux réformes, ou même aux lois qui doivent être prises, ou même élaborées dans le cadre un peu de la nouvelle constitution. Tout ce travail est en train d'être fait, je ne pense pas que la classe politique soit associée. On parle aujourd'hui de la charte des partis politiques qui, à la date d'aujourd'hui, n'est pas reliée. Certains ont parlé un peu de cette élection, mais nous n'en sommes pas au courant. Donc, le cadre de concertation avec le ministre de l'administration territoriale doit être un cadre formel et régulier. Ça ne doit pas être un cadre seulement quand le ministre a besoin de politique pour passer des messages, mais ça doit être quand même un dialogue constant, cohérent, et cela permettra un peu de restaurer la confiance. Mais pour la date d'aujourd'hui, nous n'avons aucune lisibilité sur la date des élections. Nous ne savons pas quand est-ce qu'elles vont se tenir. Nous ne connaissons pas l'état d'avancement de cette préparation, ce qui est quand même pas très... je crois que à ce niveau, on peut faire mieux.
On peut faire mieux. Est-ce que vous, au niveau de la classe politique, est-ce que vous allez imposer ce dialogue-là? Et par rapport aux élections, à la date des élections, ou bien vous allez observer et laisser faire?
Le fait que je suis sur votre plateau et parler, cela montre que nous n'observons pas. Nous sommes à une étape où il ne faut jamais accepter qu'on vous amène à faire une faute. Moi, je pense que cette question doit être le plus intelligemment gérée. Interpeller les autorités, comme je le fais ici, faire des communiqués, rappeler souvent et le dire. Parce que dans cette affaire, chacun sera jugé par rapport à ses actes demain. Et nous, on ne souhaite pas être parmi ceux qu'on va appeler, qui sont sortis, qui ont créé de l'instabilité. La transition est fragile. Le pays est fragile. Nous, en voulant forcément peut-être imposer notre agenda, on peut amener à la fragilité. Alors que si la transition se fragilise et que ça se termine, on ne le souhaite pas, on prie Dieu pour que ça ne se termine pas mal, celui qui viendra et nous souhaitons venir après ces autorités pour gouverner le pays. Donc on ne souhaite pas rentrer dans certaines considérations. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'alerter. Ce qui est important, c'est de ne pas se taire et dire le dire d'une manière très cohérente, d'une manière pédagogique, à ce que les autorités elles-mêmes comprennent. Aujourd'hui, je ne trouverai pas d'acteurs politiques, sauf Peut-être ceux qui disent oui, sans pour autant analyser le fond, qui vont te dire qu'ils ont une lisibilité sur ce qui est en train de se faire, alors que nous sommes des partenaires. Et entre partenaires, vous travaillez ensemble, vous vous rassurez et vous avancez ensemble. Parce que plus ça dure, plus ça devient dur.
Plus ça devient dur. Hein. Si vous, vous devez peut-être conseiller Amir Doumbia, parce que vous dites que vous ne voyez pas de visibilité, si vous devez donner un conseil, par exemple, hein, c'est quoi pour changer de cap?
Le premier conseil, c'est un peu plus de transparence dans la conduite du processus. Okay. Aujourd'hui, aucun d'entre nous ne sait comment les choses sont en train de se passer. Je n'ai aucune information en tant que secrétaire politique du parti. Je sais aussi que le président Dr Youssouf Diawara n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer par rapport aux fichiers électoral, par rapport à la carte biométrique ou même notre fichier qui avait été pris en otage selon les expressions du ministre d'État, on ne sait pas l'évolution. Alors que normalement, le dialogue avec la classe politique ne doit pas s'arrêter. Il ne faut pas qu'on donne l'impression à la classe politique que quand on veut seulement que les caméras nous prennent, et qu'on dise qu'une décision a été prise à l'unanimité avec la classe politique, qu'on vient, qu'on nous regroupe, qu'on filme, après on prend les interviews. Non. Il faut que le dialogue soit constant, que le dialogue se fasse régulièrement, pour que véritablement, ce qu'on cherche, on puisse savoir, on puisse véritablement savoir à temps. Ça, c'est un élément. Il faut qu'il y ait la volonté politique. Tant qu'il n'y a pas la volonté politique de sortir de la transition, on ne sortira pas. Et pour moi, c'est mieux pour nous tous qu'on sorte plus rapidement de cette transition pour que le pays puisse engager une nouvelle marche.
Ok, une nouvelle marche. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie de l'opinion qui pense, à tort ou à raison, que cette transition est en train de faire des belles choses et qu'elle peut même rester, au pouvoir. Voilà. Est-ce que vous entendez, vous, parti politique, est-ce que vous entendez aussi ce discours-là?
L'opinion a le droit de se tromper plusieurs fois. Nous, en tant que leader politique, nous n'avons pas ce droit-là. L'opinion s'est trompée plusieurs fois au Mali. Ce fut avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, ce fut avec des activistes, ce fut avec des religieux. Et moi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est aux autorités de mieux analyser la situation et de tenir compte de l'histoire politique du pays pour ne pas se tromper, pour ne pas écouter ceux qui sont des daubeurs, des laudateurs, leur faire croire que tout est rose. C'est vrai qu'il y a une partie de l'opinion qui dit ça, mais il y a une partie de l'opinion qui se plaint aussi. Qui se plaignent des problèmes d'électricité, des entrepreneurs qui se plaignent de leur entreprise, qui pensent que véritablement aujourd'hui l'économie du pays est à l'arrêt. Okay. Il y a quand même des compatriotes aujourd'hui qui sont au chômage. Donc le pays c'est un tout et l'opinion, au fur et à mesure qu'on avance, on doit pouvoir, ça évolue. Maintenant c'est aux autorités d'anticiper et de voir véritablement que le travail de gestion d'un pays c'est plusieurs moments. Je l'ai dit ici une fois sur ce même plateau que c'est pendant le moment où nous sommes en position de force que les plus grands compromis politiques se construisent. Donc pour moi aujourd'hui, il faut garder les pieds sur terre et se dire que c'est vrai, l'opinion peut-être d'une certaine manière, une certaine partie de l'opinion est comme ça, mais il y a aussi une autre partie de l'opinion qui peut-être a peur de parler, qui peut-être n'ont pas l'opportunité de parler, mais qui aujourd'hui aussi pense que il faut que on change de trajectoire.
Ok, il faut changer de trajectoire. Et tout c'est aujourd'hui sous cette transition, on a vu aussi que les hommes politiques, activistes, même dans le milieu religieux, il y a eu des arrestations, des gens qui ont été mis sous mandat de dépôt. Est-ce que tout ça pour vous est de nature à calmer le jeu politique, Amadou Doumbia?
C'est compliqué. À Vena ici, j'ai eu beaucoup d'appels des gens qui tiennent à moi, qui me disent Amadou, fais attention à ce que tu dis. Il y en a beaucoup qui me donnent des conseils. J'ai dit, ok, mais nous sommes des acteurs politiques. Nous avons opté pour ça et nous devons être courageux, de venir dire ce qu'on pense dans le plus grand respect. Donc il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Je pense que les journalistes eux-mêmes s'en rendent compte. Il y a beaucoup qui ne répondent plus aux invitations. Il y a ce téléma et puis ça crée une ambiance qui peut amener les uns et les autres à avoir peur de s'exprimer. Pour moi, plus les gens s'expriment, plus on fait face aux crises, on peut bien évidemment faire face aux crises.
Ok, d'accord, Amine Doumbia, est-ce que par rapport à l'élection, vous ne voyez pas d'inconvénient, par exemple, hein, que le président de la transition rentre dans le jeu politique et être président candidat à sa propre succession, par exemple? Est-ce que vous ne voyez pas d'inconvénient?
Même si moi je ne voyais pas d'inconvénient, la loi ne lui permet pas de le faire, ni la charte. La charte de la transition ne le permet pas, ni l'esprit de la transition ne lui permet pas d'être candidat. Donc, même si moi je le souhaite, je ne pense pas, et ceux qui le souhaitent, il faut les informer que la loi ne permet pas. La charte.
Vous parlez de quelle loi?
La charte dit que les autorités ne peuvent pas être candidats.
Il y a une nouvelle constitution que le gouvernement.
Mais lorsqu'on prend presque tous les actes administratifs qui sont pris actuellement, on vise la charte. Si la charte avait disparu après la constitution, est-ce qu'on allait viser la charte dans ses arrêtés, ses décrets et tout le reste? Ça veut dire que les autorités elles-mêmes reconnaissent que la charte est là, et la charte dit clairement que les autorités ne peuvent pas être candidats aux élections qui vont sanctionner les élections qui vont sanctionner la fin de la transition.
Ok. Donc, Amine Doumbia, parlons maintenant de votre congrès, hein, le congrès du parti Yelema. Et est-ce que c'est déjà le rendez-vous? On sait qu'il y a eu des militants de l'intérieur qui sont venus aussi. Est-ce que le congrès a répondu à vos attentes?
Le congrès s'est très bien passé. On a eu beaucoup de délégués qui sont venus.
Moi, vous êtes même plein d'un reportage qui a été diffusé. voilà.
Bon, de toute façon, chacun sera responsable de ses actes demain. Ce qui est important, notre congrès s'est bien passé. Les citoyens se sont déplacés, les militants sont venus à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous avons tenu toutes nos instances pendant cette transition, le congrès en 2020, les conférences régionales, la conférence nationale. Donc tous ces rendez-vous, Yelema l'a tenu. Ça veut dire que Yelema vit bien. Yelema respire sans le financement public. Yelema respire par le financement de ses militants. Donc aujourd'hui, ça va, on a fait le congrès. On a un plan stratégique pour les 10 prochaines années. Okay. On a un nouveau bureau du comité exécutif central. Et nous avons un nouveau président. Et voilà. Okay. Et nous avons notre candidat pour les élections présidentielles.
On peut dire que le parti marche bien malgré le contexte difficile du pays, c'est ça?
Exactement.
Ok. Et c'est dû à quoi? C'est dû à votre engagement, l'engagement des militants?
On a appris quand même à vivre avec nos propres moyens.
Est-ce qu'on peut dire à Yelema que vous avez des vrais militants?
Nous avons des vrais militants, nous pouvons faire mieux. Nous avons des vrais militants qui cotisent, qui prennent en charge leur parti, qui prennent en charge leur siège, qui investissent régulièrement pour leur communauté. Je pense que c'est cela aussi l'objectif de la politique, le fondement de nos engagements politiques, c'est d'agir pour le bien-être de nos concitoyens. Je pense que nous le faisons bien avant la transition et nous continuons à le faire.
Oui, votre candidat c'est à la présidentielle, c'est l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Et est-ce que vous pensez que il va se battre, hein, le parti va se battre carrément? Et puis est-ce que vous pensez clairement que la carte Moussa Mara est plausible aujourd'hui?
Je crois à nos délégués, ils ont fait le bon choix. Et le président Dr Youssouf Diawara nous a fait la promesse de nous faire gagner les élections présidentielles. Je crois en lui, je crois en son leadership et à toute l'équipe qui l'accompagne. Je pense que nous sommes aujourd'hui très bien armés et très bien structuré pour gagner la prochaine élection, Inch'Allah.
Oui, quand il dit qu'il va vous faire gagner, il compte sur quoi?
Il compte sur...
Est-ce que vous pensez véritablement que s'il y a élection, que Yelema pourra carrément s'imposer, ou que Yelema pourra créer la surprise? Est-ce que vous le pensez?
Ce n'est pas une surprise. Yelema aujourd'hui favori, à travers un peu son implantation, sa structuration, sa présence sur le terrain, sa présence sur les médias, les hommes qui le composent. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous les atouts nécessaires pour prétendre gagner les élections qui vont venir. Et nous sommes en train de nous préparer avec la logistique nécessaire, avec les hommes nécessaires, avec les moyens nécessaires. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous pourrons relever ce défi.
Ok. Un moment, Yelema avait parlé aussi de cadre de dialogue, de concertation avec la CODEM, hein, la CODEM de Hussein Amiens Guindo, mais aussi le M5 Malikoura. Qu'est-ce qu'il en est véritablement?
Nous avons décidé un peu d'ouvrir le partenariat, okay. Discuter par exemple avec le M5 Malikoura, notre alliance, oui. Qui est quand même pas une alliance électorale, se tourne autour de grandes idées nos visions par rapport à l'accord pour la paix issue du processus d'Alger, nos visions par rapport à la tenue des élections, nos visions par rapport à la non-candidature des militaires. Donc nous avons un certain nombre de points sur lesquels nous avons des accords, et c'est autour de ces accords que nous allons agir ensemble. Et nous sommes en contact, nous travaillons bien évidemment à structurer et à réfléchir sur les actions futures que nous allons
poser. Vous avez déjà annoncé votre candidat et puis la candidature de Moussa Mara pour la future présidentielle. Au cas où il n'y a pas élection, est-ce que Yelma, vous avez prévu aussi de ne pas perdre, voilà, de ne pas vous disperser? Est-ce que ça aussi c'est prévu?
Le congrès, l'instance suprême de notre parti, c'est le congrès qui a décidé que le Premier ministre Mara soit notre candidat. Ouais. Le prochain congrès, c'est dans 5 ans et nous espérons que les élections auront lieu avant ça. Et nous, quand même, on a choisi notre candidat pour mieux nous préparer. Nous connaissons le candidat et il a été choisi de la plus belle des manières par le congrès. Les délégués venus de partout au Mali, nous avons respecté notre démocratie interne et je pense bien évidemment qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour agir. Nous sommes prêts pour travailler et nous sommes prêts à pousser notre candidat vers la victoire. Et aucune candidature ne nous fera peur. Aucune candidature légale ne nous fera peur.
Oui, donc ça veut dire qu'une candidature illégale peut vous faire peur, c'est ça?
Bon, tout ce qui est illégal par nature, ça fait peur, bien sûr.
Ok. Mais est-ce que si au cas où une candidature illégale, hein, je vous cite, hein, au cas où une candidature illégale se présenterait contre vous, est-ce que vous allez renoncer ou bien vous allez...
Je ne vais pas vous donner les secrets de notre plan stratégique, bien évidemment. Ouais. Toutes ces hypothèses, on les a préparées. Et croyez-moi, dans notre plan stratégique, il y a des actions à mener, mais qui restent à l'intérieur du parti.
Ok. Amidou Doumbia, quelles sont les perspectives pour le parti Yelma? Voilà. Quelles sont les perspectives?
Les perspectives, d'abord, c'est de nous positionner comme le parti du vrai changement. La perspective, c'est d'agir au quotidien auprès de nos concitoyens pour gagner la confiance de nos compatriotes, pour faire en sorte que la politique puisse être bien perçue par nos concitoyens, parce que chaque jour, on travaille à détruire l'image de l'homme politique. C'est à nous de travailler, à montrer à nos concitoyens que nous faisons la politique autrement. La perspective, c'est de nous préparer pour les prochaines échéances, les élections législatives, les élections municipales et toute autre élection, échéance qui va venir, à ce que les candidats du changement puissent gagner et qu'on puisse apporter le changement qu'on souhaite pour notre pays.
Ok. Amidou, revenons maintenant toujours au sujet d'actualité. Sur les réformes politiques institutionnelles, est-ce que là aussi, vous pensez qu'il y a eu des avancées significatives?
Pour moi, on a fait la rédaction d'une nouvelle constitution. Pour la démocratie, pour moi, la question de la presse, je n'ai pas vu de nouveaux textes. Okay. C'est pas vous êtes de la presse, si vous avez vu des textes qui ont réformé la presse, parce que je pense qu'il doit y avoir des réformes dans ce secteur-là. Au niveau de la charte des partis politiques, nous sommes toujours en retard. Il y a beaucoup de réformes, les candidatures, les appels à candidature dans les lois, et tout ce qui peut être comme des questions de contrat de performance, tout ce qui peut amener à la transparence, diminuer le poids de l'argent dans la démocratie. Je pense qu'on a, il reste beaucoup à faire sur le plan un peu des réformes, même s'il y en a qui ont été portées, qui sont pas mal. Par exemple, le code minier, je pense que c'est pas mauvais. Même si le défi, c'est d'être encore attractif, on verra dans les prochains mois, prochaines années, si effectivement l'attractivité y est. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'audace. Je pense qu'on peut faire mieux.
Oui, on peut faire mieux. Par rapport au dialogue intermalien, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dit clairement qu'il y a déjà un comité de pilotage qui travaille, qui doit même soumettre un rapport dans un mois. Est-ce que là aussi, vous pensez que ce n'est pas un vrai dialogue, hein?
Bon, je pense qu'il a dit qu'il va mettre un comité de pilotage en place. Je ne sais pas si c'est le comité de pilotage est en place, mais pour moi, accordons-lui le bénéfice du doute pour que dans les prochaines semaines, on voit comment ça va se passer. Mais il est quand même important d'inclure tous les Maliens, de ne pas exclure les Maliens, de faire en sorte qu'il y ait la paix, de rassurer les interlocuteurs, d'assurer de la sincérité un peu du processus.
Oui. Mais par rapport après Kidal, aujourd'hui c'est la sécurisation. Il dit que l'ensemble hein, de la sécurité du pays qui aujourd'hui est en jeu et que ce n'est pas fini, que la mission de la transition n'est pas finie, c'est de sécuriser l'ensemble hein, du territoire national. Là aussi, ce discours à ce niveau va être rassuré.
L'objectif pour tout dirigeant, c'est de se donner de grands objectifs, faire en sorte de sécuriser le pays. Mais il serait important qu'on ait une cartographie des zones d'insécurité et qu'au fur et à mesure, on nous donne l'évolution. L'État n'était pas présent là, l'État est aujourd'hui là, l'État n'était pas là, l'État est là. Ça nous permettra de voir et d'évaluer. Mais pour nous, ce qui est le plus important, les dates qui ont été données, on a tenu compte de tous ces enjeux. Okay. Et c'est en fonction de ça qu'on a dit que les élections vont se tenir en 2024. Et nous espérons qu'il va pouvoir atteindre ces résultats et finir par les élections en 2024, parce que c'est ça l'objectif ultime. D'accord. Tout le reste, c'est les conditions à réunir.
D'accord. Il a aussi parlé, hein, le président de la transition, de la lutte contre la corruption. Voilà, et que pour lui, la lutte contre la corruption, le gouvernement va continuer à intensifier les actions pour une meilleure lutte hein, efficace contre la corruption. À ce niveau, Amadou Doumbia, quelles sont vos observations?
Pour moi, lutter contre la corruption, c'est un discours qui a été tenu par tous les présidents démocratiquement élus au Mali, même pendant les périodes de transition où il y a eu des coups d'État. Oui. Pour moi, on ne peut pas lutter la corruption sans pour autant réformer la justice, leur donner les moyens de pouvoir juger. Parce qu'il ne s'agit pas d'enfermer les gens, il s'agit de faire en sorte que ceux qui sont pris puissent être jugés. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut faire en sorte d'empêcher les gens de voler. On doit pouvoir mettre des mécanismes en place pour empêcher des réformes au niveau des passations de marché, des finances publiques, pour empêcher les gens de voler, les contrats de performance qu'on peut mettre en place. Tous ces éléments peuvent nous permettre d'anticiper et de voir les réformes, plafonner les fonds de campagne, avoir un regard sur tout ça. Par exemple, des gens qui dépensent des milliards de francs CFA, on ne connaît pas la provenance, que des enquêtes soient menées pour savoir d'où vient l'argent, parce que tant que ce mécanisme n'est pas suivi, les gens vont venir, si on ne fait pas attention, on va élire un trafiquant de drogue comme président parce qu'on ne sait pas la source de son argent. Donc, il y a tout ce travail à faire. Il y a aussi des actions symboliques qu'il faudrait mettre en œuvre. Mm-hmm. Par exemple, lorsqu'on prend le rapport de l'OCLEI, sur les 25 ministres, il n'y a que 4 ministres qui ont déclaré leur patrimoine dans le rapport. Okay. Ça, c'est des symboles importants. Il faut qu'eux-mêmes ils soient exemplaires dans ce genre de politique.
Ok, mais il y a aussi hein, des personnes qui ont été arrêtées, mais qui jusque-là n'ont pas été jugées, des politiques, des activistes. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il faut accélérer les dossiers?
Oui, c'est ce que j'ai dit en premier. J'ai dit qu'il faut mettre les moyens au niveau de la justice pour que les instructions puissent aller rapidement et qu'on puisse juger. Okay. Il faut des procès sur la corruption au Mali, qu'on puisse libérer les gens, ceux qui sont innocents, qu'on puisse les libérer, ceux qui ne sont pas innocents, qu'on puisse les condamner. Mais quand même, pour moi, on ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas une suite à ces différents dossiers.
Oui, Amadou Doumbia, la question de l'énergie de l'EDM est surtout revenue. Le président, comme vous l'avez dit, pense que on est dans la conséquence hein, de la mauvaise gestion des régimes passés. Et aujourd'hui, concrètement, est-ce que par rapport à la question de l'EDM, on peut avoir une lumière d'espoir en 2024? Bon, là, je vous pose certainement cette question. Bon, le président a dit qu'il y a une subvention, on constate que les coupures, les délestages continuent.
Ce qui est une certitude, c'est que j'ai quitté Kourofina jusqu'ici. J'ai quand même vu un Bamako noir. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Mais nous espérons que des solutions structurelles vont être posées et que d'ici le mois de mars-avril, on puisse trouver une solution, parce que ça, c'est une période de forte canicule. Il faudrait, pour la stabilité de la transition, pour la stabilité du Mali, qu'on puisse trouver des solutions réelles à ce problème-là. Mais pour moi, à la date d'aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Et pour moi, le problème s'est empiré les 3 dernières années. Donc, on essaie de trouver les solutions et qu'on n'essaie pas juste toujours d'accuser les pouvoirs précédents. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui constructif. On doit être aujourd'hui en mesure de rassembler les Maliens, de trouver des solutions à moyen et long terme à ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nos entreprises ont vraiment des difficultés. Le président a parlé de résilience du peuple malien, mais les entreprises ne parviennent pas à être résilientes parce oui. qu'elles sont en train de mourir à petit feu et elles doivent être sauvées. Et elles ne peuvent être sauvées que par la vision des autorités, par des actions concrètes et une bonne planification.
Une bonne planification. Et l'AIS, hein, le sujet aussi revenu, l'Alliance des États du Sahel, là aussi, est-ce que vous pensez que c'est, on est sur des belles perspectives avec l'Alliance des États du Sahel?
De belles perspectives si on reste focus sur l'objectif sécuritaire. Mais si on se disperse en nous menant sur des questions qui ne sont pas des questions sécuritaires, des questions économiques ou d'autres, pour moi, ça risque d'être compliqué. Nous avons des enjeux sécuritaires.
Le président a parlé clairement, il dit que l'AIS, la mission aussi, c'est d'en faire une intégration politique.
On verra. Pour moi, aujourd'hui, les institutions qui existent, travaillons à les renforcer, travaillons à les réformer. Pour moi, c'est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus efficace que d'ancrer. Pour moi, aujourd'hui, l'AIS n'est pas un problème. Sur les questions de sécurité, oui. nous avons des objectifs communs, on peut les atteindre ensemble, mais il ne faut pas qu'on se disperse.
Ok, il ne faut pas qu'on se disperse. Et la reconquête de Kidal, là, il en a parlé. Et puis, à ce niveau, vous pensez que le bilan est positif sur le dossier sécuritaire?
Le dossier sécuritaire, je ne dirais pas que c'est positif. Il y a de l'espoir, parce qu'il y a un élément qu'il faut savoir. Renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité, gagner des batailles est différent du pari sécuritaire. Le pari sécuritaire, c'est une présence constante de l'État, le retour de l'administration, de la police administrative, de la police judiciaire. Jusqu'à présent, ces enjeux restent actuels.
Ok. Et maintenant, les partis politiques, revenons toujours, parlons toujours des partis politiques. Pour vous, aujourd'hui, les partis politiques, jamais, les partis politiques n'ont jamais été vilipendés, dénigrés, voilà. Et puis, on a comme l'impression, voilà. Ça vous fait sourire, Amidou, vous assistez à ça aujourd'hui, c'est que pratiquement, les partis sont voués aux hégémonies. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire son mea culpa ou tirer tous les enseignements?
Il est toujours important de faire son mea culpa. L'archer est un modèle pour le sage. Quand il rate le milieu de la cible, okay. il cherche la cause en lui-même. C'est important okay. qu'on fasse notre mea culpa. Mais il faut qu'on comprenne aussi que c'est un cycle. Il y a eu des moments, pendant le régime de Modibo, c'était le PSP, l'USRDA. Ensuite, on a demandé le régime militaire. Ensuite, on a demandé le multipartisme. Aujourd'hui, on est avec le régime militaire. Il faut qu'on travaille et qu'on soit pédagogique au fur et à mesure. Je pense qu'on pourra relever le défi. On pourra reconquérir les cœurs de nos concitoyens.
Ok. Et par rapport à la société civile, est-ce que vous avez aussi des choses à reporter à la société?
La société civile doit veiller. Elle n'a pas veillé ces 30 dernières années. Et la Constitution de 2023 leur donne cette mission de veiller. Et aujourd'hui, elle doit veiller pour que les autorités puissent être sur le droit chemin. Il ne faut pas qu'elle soit juste là à applaudir.
Ok. Oui, le gouvernement, de façon générale, est-ce que pour vous, le bilan du Premier ministre, que vous aimez d'ailleurs très bien, est-ce que pour vous, le bilan, il est bon, et c'est un bon bilan?
Pour moi, si le bilan du Premier ministre, pour moi, sur beaucoup de plans, sur le plan économique, je ne pense pas que ça aille. Mm-hmm. Sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan économique, que ce soit un peu sur le plan social, sur le plan du rassemblement des Maliens, il y a encore beaucoup de choses à faire. Okay. Je pense que les membres du CNT même l'ont noté 3 sur 10, je pense. Donc pour moi, il y a encore des efforts à faire. Il doit faire des efforts pour rassembler, il doit faire des efforts pour atteindre des résultats dans d'autres secteurs qui n'est pas le secteur de la défense et d'achat d'équipement.
Ok. Oui, mais il dit, le Premier ministre, je le cite, il dit que la démocratie doit venir après la sécurité.
Bon, on ne peut pas dissocier la démocratie et la sécurité. C'est quand même un État stable, avec un État où il y a l'État de droit. Okay. C'est ce qui peut amener la sécurité. Tant que les citoyens ne se sentiront pas à l'aise, tant qu'on ne parviendra pas à régler les problèmes d'eau, d'électricité, on ne peut pas parler de sécurité. Il y a l'insécurité dans tous ces secteurs-là. Donc pour moi, aujourd'hui, on doit travailler sur plusieurs volets. Le volet de la défense et de la sécurité, le volet du développement. Mais la démocratie n'a rien à voir avec ça. Rejeter la démocratie, dire que la démocratie, la sécurité après la démocratie, ce n'est pas comprendre un peu la démocratie. C'est un peu contraire à tout ce que lui il a défendu ces, dernières années, le combat qu'il a mené avec Soumaïla, le combat qu'il a mené avec le M5-RFP. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on sorte de la transition.
Oui, qu'on sorte de la transition, mais il y a aussi certains politiques qui demandent même la dissolution des partis politiques. Hein. Ils le demandent clairement et puis de façon directe, hein, ils demandent la dissolution des partis politiques. Et puis pour eux, le modèle de démocratie aujourd'hui ne répond pas aux aspirations des Maliens. Est-ce que vous entendez ce discours-là aussi?
Ce que je voudrais dire aux uns aux autres, c'est que chacun sera jugé par rapport à ses faits et ses gestes. Ce qui est important, les partis vont exister, les partis résisteront et les partis continueront à vivre même après la transition.
Oui, maintenant parlons de diplomatie. Aujourd'hui, pour vous, quelle doit être la ligne directrice de la diplomatie malienne?
Pour moi, le
prétexte, c'est aussi cette brouille diplomatique entre le Mali et l'Algérie.
Pour moi, on doit travailler à nous entendre avec nos voisins. On doit avoir une diplomatie qui règle les problèmes. Donc pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous attendre avec nos voisins, c'est de faire en sorte qu'on ait moins de bruit et que la diplomatie puisse régler les problèmes des Maliens et que les Maliens n'aient pas de difficultés à l'extérieur du Mali.
Ok. Vladimir Poutine, c'est l'allié principal aujourd'hui du Mali. Le président de la transition lui a d'ailleurs fait un clin d'œil. Il dit qu'il a apporté un appui politique, mais aussi sécuritaire pour le Mali. Là, donc, est-ce qu'aujourd'hui, le choix, c'est carrément la Russie comme partenaire stratégique?
Il y a Deng Xiaoping qui disait, peu importe le chat, qu'il soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris. Okay. Aujourd'hui, que ce soit Poutine ou pas, moi, mon objectif, c'est de voir mon pays sécurisé, c'est de voir mon pays en paix, c'est de voir les peines de mes compatriotes levées. Donc, que ce soit avec Poutine ou avec Staline, le plus important pour moi, c'est qu'on puisse régler les problèmes des Maliens et dans le temps.
Ok, Amadou Doumbia, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliens, les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, c'est quoi le message?
Le message, c'est la tolérance. La tolérance, c'est de nous serrer la ceinture, de nous aimer. J'ai vu beaucoup de messages quand on enferme les gens disent Dieu merci, les gens applaudissent. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte de nous aimer, nous devons faire en sorte de ne pas souhaiter le mal aux autres. Moi, je profite de l'occasion pour vraiment un message de soutien à tous ceux qui sont en prison, à Ras Bath, à Ben Le Cerveau, à Sidiki Kouyaté, aux religieux, à tous ceux qui, aujourd'hui, sont privés de leur famille. Je prie Dieu pour qu'ils sortent de cette difficulté et qu'ensemble, on puisse continuer à construire le pays ensemble. Le Mali, c'est pour nous tous. Le Mali, c'est pour ses enfants. Quand le Mali va réussir, c'est pour tous ses enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, le président a parlé de dialogue intermalien. Il est important qu'on fasse en sorte que tous les Maliens se tiennent la main et qu'ensemble, on puisse sortir de là. Encore une fois, je vous salue. Je salue Djoliba TV. Et je salue mes compatriotes et j'espère bien évidemment qu'on sortira de cette transition de la plus belle des manières.
Merci Amadou Doumbia, le brillant Amadou Doumbia, secrétaire politique du parti Sadi.
Yelema.
Du parti Yelema. Oui,
c'est Baborou. Sadi, c'est Baborou, c'est mon ami, c'est mon grand frère.
Baborou Boukoum va certainement aimer ça. Ok, merci beaucoup Amadou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema. Amadou Doumbia, un jeune politique très brillant qui a su garder sa constance pendant toutes ces années. Il n'a connu que d'ailleurs que le parti Yelema. Merci Amadou Doumbia, merci, bon vent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi. Au revoir.
En toute liberté.